Marceau et Audrey Pinchot. Un Marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un Marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
1 minute, salut, bon matin, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, mon nom c'est Yann Marceau, très content d'être accompagné par madame, je mange une toast 30 secondes avant de rentrer en onde, Audrey Pinchot, toast au beurre de peanut.
C'est bon au moins.
J'étais allergique.
Arrête, t'es pas allergique aux peanuts. Relève-toi là, t'es pas allergique aux peanuts Marceau.
Ça gratte, ça pique.
Dis pas des niaiseries de même. Moi, tu sais que j'ai des fortes allergies. Si t'es allergique aux peanuts, je vais sortir.
Patron, là. J'aurais besoin de 2-3 semaines okay, de vacances, nice. Moi, ici.
T'es tellement nono. Ah! Comment ça va?
Ça va bien. Ben, tu vas en manger froide, ta tosse?
Ben oui, je vais en manger frais. Je suis habituée, je fais juste ça.
Que moi et les auditeurs, on attend pendant le temps que tu manges? On va attendre un
peu. Tu me permettrais de prendre une bouchée?
Oui, non, non, mais vas-y, là, on va attendre.
Mais
non,
regarde, je vais. Je ferai jamais ça. Je peux pas faire ça. J'allais le faire impossible. Hey, je viens de vivre une affaire tellement satisfaisante.
Mais qu'est-ce que c'est?
Tu sais, quand tu vas aux toilettes dans une entreprise.
Hey, parle-moi-en, ça m'intéresse.
Puis t'es la première personne qui arrive dans cette toilette-là propre, genre le bol élevé, parce que la dernière fois que quelqu'un est rentré là, c'était la personne qui fait le ménage.
Ouais, tu vois encore le fond de comète là, dans le fond de la toilette. Là.
Tu t'assises sur quelque chose de propre, tu partages pas tes bactéries de derrière avec la moitié de la populace du building, mettons, satisfaisant. Fait que j'ai les fesses propres, je suis vraiment contente.
T'as pas fait ton petit nid d'amour, là?
Mais d'habitude, je fais ça, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui passent ou que les toilettes sont un peu sales ou je me mets du papier de toilette ou je squatte.
Je fais toujours mon petit nid d'amour, mais moi, sérieusement, puis je parle aux personnes qui font le ménage, je vous salue en passant, merci beaucoup de faire la job que vous faites. Vous êtes hyper important pour nous, mais je suis germophobe, OK? J'ai pas...
T'es un mal écoeureux.
J'ai pas grand faiblesse dans la vie, mais les germes, ça m'agace un peu, puis je vois tout. Ayant travaillé dans la restauration, on était habitués à faire attention à ce qu'on faisait constamment. Exemple, pour la cuisine, tu sais, si tu touchais à du poulet qui était pas cuit, puis qu'après ça, le poulet ressortait, tu reprenais les mêmes instruments, tu te le faisais dire, puis c'était pas...
Hey, puis avec raison,
pas,
en passant.
Hey, tu devrais peut-être juste changer tes affaires. C'était très, très, très sévère. Même affaire pour ce qui est de la salle à manger, tu sais, avec les allergies, je niaisais tantôt avec l'allergie aux peanuts, là. Mais on était très, très, très attentifs à ça. La propreté, pas les mêmes guenilles pour les bancs que pour les tables. C'était tout le temps deux guenilles différents.
Ce qui est une logique. Puis, même chez McDo, c'est ça. Là.
Ouais.
C'est la base. Là.
Puis ça va peut-être te surprendre, là, Audrey, mais dans les années 60, 70, 80, 90, les gens qui faisaient le ménage ne se protégeaient pas les mains. Puis je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être avec le fait qu'on a inventé des nouveaux gants de plastique qui sont super utiles, puis tu peux te protéger les mains avec ça. Fait que les gens qui font le ménage mettent ces gants-là. Ce qui fait en sorte qu'ils les mettent au début... et jusqu'à la fin de leur corps de travail, puis ils ne changent pas. Donc, tout ce que ces gens-là vont toucher, poignée de porte, lumière, piton d'ascenseur, tout ça, c'est du début jusqu'à la fin, les germes que tu peux avoir.
C'est tellement drôle que tu dis ça, parce que j'ai eu cette conversation-là en fin de semaine, où la personne me disait, moi, dans mon domaine, je fais attention de ne pas mettre de gants tout le temps parce que j'oublie de me laver les mains, sinon.
Exact.
C'est fou parce que t'as l'impression que tes mains sont protégées, puis pourtant c'est tellement, tellement important. Ça m'est déjà arrivé de devoir dire, moi, à quelqu'un en cuisine, dans un restaurant, cuisine ouverte, là, sur le bord du bord, de recommencer un... Puis c'est pas parce que je jouais pas à Karen, là, c'était une question d'allergie, de recommencer un plat parce que je voyais que la personne s'était pas lavé les mains entre le chop du poisson puis la préparation de mon assiette. Là, ben, c'était comme ma vie qui était en jeu, tu comprends? Mais c'est des choses que le monde oublie, on dirait, sauf dans les bons et grands restaurants où c'est encore super strict. Là.
Il l'oublie aussi des fois.
Ah, sûrement, là, ça arrive des oublis. Là.
Moi, j'étais allé dans un bon grand restaurant. Là. 12 pouces, 5 $.
Ah oh, oui, puis, le grande gars qualité.
Était, le gars était seul, on était peut-être une dizaine en ligne, puis il était en panique. Là. Fait qu'il fallait qu'il fasse les sandwichs, puis il fallait qu'il fasse payer les gens. Puis il était tellement dans le jus que les gens, ça leur dérangeait pas d'attendre, là, parce qu'on voyait qu'il était seul puis qu'il faisait son possible, pauvre petit. Mais il se lavait pas les mains entre le moment où il donnait le change puis le moment où il faisait le sandwich.
Oh.
Puis j'étais tellement mal, c'est pas la première fois que je la compte, ça, là. Je pense que ça fait deux ans que j'ai compté. J'étais tellement mal que j'ai payé mon sandwich, j'ai pris mon sandwich, je l'ai crissé au vidange, j'ai sacré mon gant.
Arrête, oh, tu l'as pas dit.
Non. Non, non, j'ai trop mal. T'sais, il était déjà dans la marde, le petit gars. Là. C'est, je veux dire, il y avait quoi, mettons, 15 ans à peu près?
Ouais.
Il y avait 10 personnes qui
il
attendaient.
Il a sûrement même pas pensé.
Puis dans le fil, t'as tout le temps des gens qui respirent plus fort. Là. Ils veulent que le petit gars qui est déjà dans le trouble entende qu'il y a quelqu'un dans le fil qui soupire.
Qui est exaspéré. Oh, le monde est énervant. Non,
ben,
mais c'est des choses.
Il y en a qui se parlent, hein?
Oui.
Tu sais, ils sont dans le fil, là, puis là, comment t'es en train de respirer, puis après ça, ils disent « OK, faut pas que je panique, là. OK, non, faut pas que je panique.
Respire. Mais change de resto rendu là.
Ouais, mais des fois, t'as juste pas le choix. Puis t'as une heure de dîner, mais faut que tu te rendes. T'as une heure ou une demi-heure. Faut que tu te rendes, puis faut que tu reviennes sur la route. Fait que quand tu pognes un endroit où c'est très achalandé, des fois, tu peux être très
impatient. Tu sais, on parlait là, d'habileté sociale plutôt cette semaine ensemble. Là. C'est quoi pour. Bon, je vais reprendre ta situation. Là. C'est quoi pour le petit gars de dire je suis désolée, je suis seule, ça va prendre un peu de temps, je m'excuse. Ça désamorce la bombe parce que tu te sens mal dans le fil d'agir comme un cote. C'est comme un colon, tu comprends? Puis inversement, pour le client, c'est quoi de... Hé, hey, mon Dieu, je te comprends d'avoir été trop mal de lui dire, mais moi, hey, excuse-moi, je sais que ça va vite, m'oublie pas de laver tes mains en le change, j'ai plein de bactéries, puis j'aimerais ça rester en vie, tu sais. Je trouve qu'il y a des choses qui se disent.
Ouais, tu sais, mon chum Dan qui m'écrit, t'as un petit peu, je vais juste vérifier, parce qu'il est dans une conversation de gang... Ah, c'est Dan des Fromageries Victoria. Il nous écoute présentement, puis il dit, nous autres, on fait vraiment attention, là, du début jusqu'à la fin.
Il lave les mains.
Pour les allergies, tout
mais
ça.
Oui, ben, ils n'ont pas
le
choix.
Mais le personnel de ménage, les concierges, ils s'en rendent plus compte qu'ils ne lavent pas leurs gants. Tu sais, moi, si tu gardes tes gants pour te protéger, pas de trouble, mais au moins, lave tes gants. Tu sais, une fois que tu as fait les toilettes, va pas faire les éviers après, puis...
Ah, là, tu vas m'angoisser, je vais me mettre à penser à ces affaires-là.
Ben, change tes gainés.
Tu veux-tu que je te dise pire que ça,
Yann? Au McDo, là, je me souviens, tu sais, mon ancien gérant que tu as rencontré, oui. Mario Tremblay, qui est au McDo sur Amel, meilleur gars de la Terre. Mais au niveau de l'aseptisation, là... C'est, écoute, c'était un dictateur.
Mais j'en doute pas.
Partout où il passait, il voulait aseptiser les choses pour être sûr et certain qu'il n'y a jamais un appel d'un client qui dit « Bonjour, M. Tremblay, j'ai été manger dans votre restaurant Ronald McDonald. J'ai été malade. » Il voulait rien savoir de tout ça. Fait que c'était M. Guéné. Puis il n'y en avait pas une, il y en avait trois. Puis c'était chaque
Mais ils ont des barres de couleurs, hein? Les mauves, me semble, sont pour les chaises, puis les vertes sont pour les tables.
Ah, je suis sûr que ça vient de lui. D'après moi, il a appelé au bureau chef.
Et c'est une des premières choses que tu apprends quand tu travailles.
Aux
là.
États-Unis, là. Il a dit faites-moi des gainés différents parce que mes employés, ils comprennent pas.
Et puis ça tremble dans le javel, cette affaire-là, pendant des heures.
Oui, c'est pas. Ça sent un peu ça, mais c'est une petite poudre qu'on mettait, puis ça désinfecte absolument tout.
Oui.
Ah non, c'était Ronald McDonald, là, dans le temps, je sais pas encore si c'est comme ça. Moi, j'ai travaillé chez Ronald pendant quelques années, à l'âge de 13-14 ans, dans ce coin-là. Puis ça a été l'armée, là.
Mais les règles sont encore les mêmes. Je pense que le problème, c'est le monde. Tu sais, dans le sens que les chefs de corps sont plus jeunes, les boss sont plus jeunes. J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être un genre de « bah ». C'est un petit laisser-aller.
Un
là.
Petit relâchement. Mais il devrait pas en avoir quand il s'agit de la santé des gens.
Oui, mon manque de
vraiment
monde.
Vraiment rendre ton monde malade. Mais ça, c'est un appel à tous. Pour tous ceux qui sont en entretien ménager.
Comment tu penses qu'ils lavent les toilettes, hein?
Ben, je sais comment ils lavent les toilettes.
Comment?
Le problème, c'est qu'après ça, ils changent pas de gants puis ils s'en vont toucher à mon piton d'ascenseur. Elle rentrait en même temps que moi l'autre jour.
Je veux pas parler pour tous les aides ménagères, là, de building, puis les entreprises. Mais moi, je me souviens que j'avais un chum quand j'étais ado, que ses parents avaient une entreprise d'entretien ménager, puis il avait entre autres là, les concessionnaires. C'était du côté de Montréal. Puis je me souviens qu'un soir, j'étais allée donner un coup de main et la façon de laver les toilettes, il mettait du produit dans l'eau de toilette et utiliser l'eau de toilette pour passer puis laver tout le bol, mais pas juste le bol, là, la patente où on pèse pour que ça flush.
Ouais, je fais pas ça chez nous, mais il y en a-tu qui font ça en entreprise, je sais pas.
Puis il laissait ça sécher parce que le lendemain, tu comprends, c'était séché. Là, fait que avec l'eau de toilette, il lavait les toilettes.
Ouais, mais l'eau de toilette, c'est de l'eau pure.
Je t'entends. Mais ça me. Oui, non, mais je t'entends, Yann. Mais moi, chez nous, c'était avec un push-push, tu comprends? Puis je nettoie avec. Puis je jette ça. Je prends même pas des guenilles réutilisables, ça m'écœure. Je prends du Scott Tower, j'aide pas l'environnement. Mais avec de l'eau de toilette. Puis je me souviens que je m'étais dit. Et à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à mettre des pattes de papier de toilette pour me faire un petit coussin de foule.
Ah non, faut toujours faire attention. On est-tu rendu trop fragile?
Peut-être.
418-971-1021, on est-tu rendu trop fragile? Tu sais, il y en a qui ont été malades au Mexique, là, avec l'eau. Parce que, tu sais, au Mexique, on dit, bon, c'est correct, mais il faut que vous fassiez attention.
Ouais, mais partout,
pour ce qui est de la nourriture.
C'est la malaria et ces compagnies-là.
Ouais, c'est plus, on appelle ça la tourista, là, mais c'est plus.
C'est vrai, la malaria, c'est Marincoin.
Tu sais, l'eau est traitée peut-être différemment d'ici. Fait qu'on est, nous autres, on est vraiment aseptisés là, comme population. Mais eux autres, ils ont tellement le système immunitaire fort qu'ils peuvent boire leur eau sans aucun problème. Puis là, ben toi, tu te fais dire, si tu vas là, fais attention, il y a des hôtels où des fois, ils lavent la salade à la Champleur.
Ouais.
Fait que ça, là, c'est de l'eau.
La glace.
C'est de l'eau de la ville. Et la glace, ils font attention. Certains hôtels, là, du moins, là, ils font vraiment attention. Mais c'est surtout laver la salade, laver les légumes. Si tu tombes sur des gens qui n'ont pas fait attention, ben ça se peut que tu ailles la petite tourista.
Ton voyage va se passer dans ta chambre d'hôtel.
Oui, c'est le fun. Tu es en voyage et tu perds du poids en plus.
Ah, c'est tellement de la chenoute, là.
D'habitude, tu essaies de perdre du poids avant d'aller en voyage. Là, tu es en voyage et tu perds du poids.
Je pars début février, là, puis je suis consciente à quel point je vais engraisser, puis j'ai tellement hâte, là.
T'en vas où?
De manger. Ah, oh, je m'en vais en République Dominicaine, là, une c'est semaine vrai? Dans le sud avec des amis, puis je m'étais juré que je ne retournerais pas dans le sud parce que je trouvais que c'était une perte d'argent. Puis c'est super personnel. Hein? Moi, j'aime les voyages. Je veux dire, je pars sans savoir trop où je m'en vais, pas trop de plans. J'aime découvrir, j'aime la culture, j'aime. Fait que j'avais l'impression, surtout aujourd'hui avec le prix des voyages dans le sud, j'avais quand même l'impression de perdre de l'argent pour rien faire. Tu sais, dans le fond, tu te lèves, tu déjeunes, piscine, plage, OK, on dîne. Piscine, plage, OK, on soupe. On fait la fête, on se couche, on recommence. Je trouvais que tu faisais rien de le fun, tu sais. Puis c'est vraiment, c'est personnel, là. Il y en a qui vont là pour se reposer puis qui adorent ça. Je sais que t'es un grand fan des voyages dans le sud.
Ben moi, je suis là, je bouge pas, là.
Mais écoute!
Je me lève. Des fois, je vais m'entraîner avant, mais non, normalement, je me lève, je vais manger, je m'en vais me recoucher. Mais c'est vrai, je me lève, je vais manger, après ça, je m'en vais porter une serviette comme réserver mon spot autour de la, autour de la plage, là, ou encore autour de la piscine. Puis après ça, je m'en vais me recoucher. Après ça, je me lève, commence à prendre une petite bière, puis ma journée est entombée.
Oui, tu payes pour... C'est carrément ça, tu payes pour te reposer.
C'est ça. Après ça, il est autour de 13h, 14h. Je m'en vais dîner. Je me bourre la face. Je m'en vais me coucher à l'hôtel. Après ça, je ressors, me baigne un peu. Après ça, je retourne souper.
C'est que ça, là.
Je m'en vais me coucher, je prends ma douche, puis là, je sors.
Mais moi, tu vois, il faut une excursion, quelque chose, en plein milieu de la semaine. Il faut que je vive quelque chose. Puis là, on a décidé d'y aller en couple d'amis. Fait que je me suis dit, ça va être le fun, ça sera pas emmerdant. T'sais, on va prendre un verre, on va rire, on va avoir du fun. Fait qu'on va là une semaine au mois de février, j'ai bien hâte de voir.
C'est pas des vacances, c'est obligé de parler au monde.
Mais pas du tout. Hey, ça, tu dis ça, nous, ça a été une règle. Avant de réserver, on s'est dit, on veut-tu partir ensemble? Oui, ça nous tente. Parfait. À partir du moment où on veut partir ensemble, tu fais tes affaires, je fais mes affaires. Nous autres, on leur a dit, là, vous voulez passer la journée sur le bord de la plage, nous autres, ça ne nous tente pas, puis on a prévu autre chose. On se retrouve pour souper, là. Hey, moi, les voyages où t'es forcé de passer du temps ensemble, il n'y a rien de pire, là. Puis j'ai dit, pareil à mon chum, t'as payé ton 2000 quelques piastres. Tu veux dormir à l'hôtel pendant que moi, je vais me tremper les pieds? Va dormir.
Ben oui.
Ça sert à ça, tu sais, au prix qu'on paye.
Moi, je fais vraiment des longues marches aussi, là, sur la plage. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la... Tu sais, je ne vais pas me baigner tout le temps dans la mer, là.
Non.
Non. Je me promène sur le bord de la mer.
Fais-tu l'aérobie?
Non. Je vais faire. J'ai prévu faire une ou deux journées de plongée sous-marine.
Ah.
Mais pour le reste, là, ça va juste être de l'hôtel. Il n'y a rien de pire que t'en aller dans un hôtel puis être avec des chums et revenir complètement brûlé. Là.
Non, mais là, c'est un trip. Exact.
Mais tu reviens complètement brûlé. Fait que là, je vais aller avec ma blonde au mois de décembre dans un hôtel au Mexique. Là.
Ah, ouais!
Puis là, elle me dit, quelle activité tu veux faire? Aucune.
Rien. Mon chum m'a dit pareil. J'étais comme, on pourrait faire une excursion, on pourrait aller en catamaran, non?
Ouais, quelqu'un qui dit, une couple de futurs ex-amis. Il y a beaucoup de ça aussi. Des filles puis des gars qui s'en vont en voyage.
Puis ça pète.
Puis l'amitié pète.
Je pense pas, par exemple.
Ou le couple pète.
Ouais. Faut que tu saches...
C'est tough, ça.
Ben, totalement. Mais c'est-tu quoi, nous autres, on a passé à travers la pandémie. Fait que je me dis, on est fait solide. On a été pognés ensemble pendant un an à la maison.
Pauvre petit, il pouvait pas se sauver.
Hey, tu sais que mon chum, la pandémie, ça a été un paradis, hein? Puis là, je dis ça, on s'entend, on niaise ici. Là, je sais que ça a été tragique pour bien du monde, là.
Ouais.
Mais lui, là, pas voir personne, être enfermé chez eux avec son skidoo, son quatre roues, ses bébelles, tu comprends, sa moto, être comme, c'était des vacances, là. Il y a eu un bout, là, où quand on savait pas à quel point c'était tragique, les premiers mois, mettons, en 2020, là.
Ouais.
C'était les vacances. Là. Lui, il tripait, là. Ouais, passait ses journées à la maison, tu comprends, relax dans ses affaires, dans le bois, il capotait, là.
Ouais, il était capable de faire abstraction de tout ça. Moi, j'étais incapable de considérer ça comme le bon temps, là. J'étais Incapable. Moi, j'aime les gens qui sont capables d'y aller au jour le jour en se disant « Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, ce sera d'autres choses. » Puis j'essaie le plus possible d'appliquer ça, mais dans le temps de la pandémie, je sais pas comment vous autres vous ressentiez, mais moi, de me faire dire, quoi faire, comment je devrais penser, inquiétez-vous pas, on est là pour vous, alors que je regardais avant la pandémie, puis tout autour de moi, tout ce que le gouvernement touchait, c'était une catastrophe, puis là, t'avais papa Legault qui faisait sa messe à chaque jour à 13h. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu en bénévolat, là. Moi, je faisais du bénévolat. Mm-hmm. Puis là, j'étais assis, le péteux assis, à 13h, dans un foyer de personnes âgées. Puis la dame qui s'occupait, qui était directrice générale de l'établissement, elle se fiait sur ce que François Legault disait pour apprendre que ça allait être quoi ces prochains jours.
Mais là,
jours.
Moi aussi, je te parle pas des 3 ans. Là. Je te parle littéralement des 3-4 premiers mois. Là.
Ah. Non, il pouvait pas se sauver. Oui, c'est pour ça qu'il restait là.
Non, mais c'était très... Alors, il faut dire aussi que nous, ça a donné vraiment dans un moment où on venait d'acheter notre chien. On commençait à vivre ensemble. Ah, on venait d'emménager à Shannon avec le bois en arrière à perte de vue. C'est comme tomber dans un moment où on pouvait prendre du temps ensemble puis découvrir notre chez-nous, notre coin. On s'accrochait à ça, tu sais. Puis ça dépend de l'importance que tu y donnes, puis c'est peut-être pas la bonne façon de penser, mais moi, dans des crises de même, là, puis peu importe celle qu'on va vivre dans le futur, là, j'ai le lâcher-prise plus facile que je pensais, parce que sinon, je vais y cingler. Fait que, je me dis, tant qu'on n'est pas rendu trop loin, là, tourne à droite, bon, ben, me tourne à droite pour l'instant, puis on s'en reparle dans 2 ans, là, tu sais, dans la mesure où...
T'as été bonne dans l'armée, toi.
Ben, c'est pas gauche, une question d'être gauche, bonne ou pas.
Gauche, droite, gauche,
ben,
gauche,
les
droite.
Premiers mois, puis ça, je sais qu'on pourrait s'obstiner tellement longtemps, là. Puis je dis pas ici que... Je veux pas parler de la job qui a été faite, de si c'était bon ou pas bon, de Legault. M'en sac comme dans la 40. Je te parle juste de moi, les premiers temps.
Ouais.
Je savais pas ce qui s'en venait, comme tout le monde.
Donc, moi, c'était la perte de contrôle. Les gens qui vivaient des difficultés autour de moi.
Oui.
Les entreprises qui fermaient, des gens qui perdaient carrément leur job, des hommes et des femmes d'affaires qui se disaient, attends un peu, là, moi, j'ai travaillé.
Beaucoup
là,
d'injustices.
J'étais en train de me faire détruire mes affaires. Puis j'étais en contact avec ces gens-là sur les réseaux sociaux. Puis ça me rendait triste pour eux autres.
Mais totalement.
Je ressentais cette douleur-là. Mais je comprends que petit chum, lui, avec son skidoo, il oubliait tout ce monde-là.
C'est sûr que tu dis même, ça a l'air un peu ingrat, là.
Il y a quelqu'un qui dit il était content, il dépensait pas en sortie avec Audrey.
Absolument. Mais c'est totalement lui économisé. Le pire, c'est que je parle de lui, mais tu sais.
On l'appellera plus petit chum, on va l'appeler petit cheap. Comment il va, petit cheap?
Je pense qu'il l'accepterait. Il est bien avec ça parce que dans sa tête, ce qu'il fait, c'est intelligent.
Ben oui, c'est intelligent. Hey, j'ai des petites questions à vous poser, les amis. Ça vous dérange-tu les placements de produits dans les séries télé que vous écoutez ou encore les films que vous écoutez? Ça vous dérange tout le temps?
Ben, j'y remarque.
Ouais.
Ça me dérange pas, là. Non.
Puis, t'as-tu déjà remarqué, moi, du placement de produits à outrance, là, qui a fait en sorte que tu t'es dit, moi, Audrey, je suis complètement outré de ce que je suis en train de voir, là, dans cette série-là, qu'elle soit québécoise ou américaine?
Non. Je suis plate en te répondant à ça.
Non,
pas
du tout.
Une personne qui s'outre facilement. Là,
c'est Hugo Dumas, le chroniqueur, là, qui parle beaucoup de ses séries télé puis
bon.
Des films qui a fait un post Facebook hier. Je l'ai trouvé franchement intéressant, ce post Facebook-là. Ça donne que les émissions qui parlent, je les écoute pas. Mais ça peut s'adapter à peu près à tout ce qu'on peut écouter. T'sais. Lui, il dit le placement de produits dans Indéfendable est vraiment intense depuis 2 semaines. Du Genacol, tu me fais du bien! Au garage de la pizza Salvatore à une pendaison de crémaillère, du café dépôt dans toutes les pièces du cabinet La Pointe McDonald's et des voitures Albi le Géant partout. Ça commence à faire beaucoup de pubs. Est-ce que ça vous dérange? C'est Hugo Dumas qui vous pose la question. Vivez-vous bien avec ces nouvelles réalités budgétaires plus difficiles? L'émission rivale Stat, elle, n'accepte pas d'intégration publicitaire à l'intérieur de sa série. Il précise, Hugo Dumas, que c'est du placement de produits dans les séries de fiction qui l'intéresse. En télé-réalité, il n'y a aucune règle et les participants pluguent allègrement les lunettes Bon Look ou encore la crème Zora. En fiction, l'union des artistes balise de façon très stricte la manipulation d'objets commerciaux par les acteurs. C'est pour cette raison, notamment, que les comédiens ne nomment jamais de marque dans les épisodes et qu'ils touchent rarement aux tasses et aux boîtes de pizza portant des logos. Ça, c'est balisé par l'union des artistes. Puis, je lisais les commentaires, puis la plupart des gens ont dit non, ça ne me dérange pas. Il y en a qui disaient, hey, je n'avais même pas remarqué. Puis, il y en a d'autres qui disaient, oui, ça me dérange, mais c'était une minorité. Puis,
moi, j'écoute Indéfendable.
Puis, de l'autre côté, je me suis dit, hey, ça coûte tellement cher la télé pour ce que ça rapporte. T'sais. Ils ont perdu de l'auditoire comme pas possible, là, surtout en ce qui a trait aux séries québécoises. Il y en a qui se font et qui passent totalement dans le beurre, puis ça vaut des millions et des millions de dollars. Puis c'est payé par nous autres, c'est payé par le gouvernement, c'est très subventionné. Je me dis, être un artiste, là, être un acteur, puis on me dit, hey, Pizza Salvatore, t'as commandite, Marceau, pour que tu puisses être comédien dans cette série-là. Ça te dérange-tu d'ouvrir la boîte puis de dire que hey, la pizza est bonne aujourd'hui puis de passer à d'autres choses rapidement? Tu sais quoi? Je serais la prostituée idéale.
Ah, mais je te comprends totalement.
Parce que de demander de l'argent constamment au public, au gouvernement, en fait, puis de cracher sur l'investissement privé, moi, je trouve ça très ordinaire. Mmh. Puis pour Pizza Salvatore, pour les autres entreprises qui font du placement de produits, c'est le fun parce qu'ils se font voir. Mais pour les acteurs, leur salaire vient d'entreprises privées plutôt que de constamment du public.
Oui, totalement. Comme spectatrice, mettons là, téléspectatrice de Stats et Indéfendable, je pense que tu le remarques des fois, ce placement de produit-là. Mais moi, l'effet que ça a chez moi, mettons, là, c'est une série de chez nous, tu comprends? C'est des acteurs québécois. Puis j'ai l'impression que je suis juste encore plus près de la réalité de ce qu'ils vivent dans la série. Comprends-tu ce que je veux
dire? Ça a l'air plus local.
Ben oui. Non, mais sérieux, ça a peut-être l'air niaiseux. Mais je veux dire, Salvatore, j'y connais. Ben, Café Dépôt, tu sais, c'est des entreprises que tu croises.
C'est une super de bonne réflexion.
Là. Moi, honnêtement, ça me frustre pas du tout. Au contraire, on dirait que j'ai l'impression d'être encore plus dans l'action de ce qui peut se passer. Puis tant mieux, en fait, pour ces entreprises-là qui placent. Là. C'est sûr qu'il y a une limite, là. Je veux dire, si t'as des affaires dans chaque scène, ça devient... Ça devient plus attirant que la scène elle-même, mais je pense pas que c'est exagéré jusqu'à maintenant. Moi, je le file vraiment pas comme ça.
Oui, mais je peux pas te donner mon opinion sur la série Indéfendable.
C'est tellement bon, tu devrais l'écouter.
Ben, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'un jour, je l'écouterai. T'sais, j'ai pas écouté, c'est 19-2.
Oui, il y a 19-2, puis il y a voyons, l'autre là, qui a été full populaire, District 31.
OK, moi, c'est les deux gars, là.
19-2. Bon, c'est Netflix, ça, tu sais?
19-2. J'ai longtemps dit, non, ça m'intéresse pas. Puis quand je l'ai pogné sur Netflix, là, je les ai écoutés tout en ligne tellement j'ai trippé sur cette série-là. Fait que peut-être qu'Indéfendable, ce sera la même chose. Dans 2-3 ans, je vais écouter ça, puis je serai plus capable de m'en séparer. Mais je me prononcerai pas là-dessus. Mais moi, c'est vraiment le fait que... Hey, les acteurs! Hey, la communauté artistique, vous êtes en train de crever. Pouvez-vous accepter de l'investissement privé, s'il vous plaît? Puis si on vous demande d'ouvrir la boîte ou de boire un café, vous n'êtes pas obligé de rien dire, mais vous pouvez le prendre au moins dans votre main. Ça a l'air que l'Union des artistes là, est très, très stricte là-dessus. Sais-tu quoi? Le problème au Québec, peut-être, c'est l'Union des artistes.
Peut-être. En même temps, je pense qu'il te faut l'accord de l'acteur ou de. Tu sais, t'as des acteurs au Québec ou des personnalités publiques qui sont affiliés à certaines grandes marques, qui sont porte-parole de certains produits. Je peux comprendre que si tu joues dans une série puis on te place un produit qui est compétiteur de ce que toi tu représentes d'habitude, j'arrive à comprendre le malaise. Je veux dire, on le fait nous autres en radio, Yann. Si t'es porte-parole de Nissan, ben tu seras pas porte-parole en même temps de Volkswagen Saint-Nicolas.
Je comprends,
t'sais.
Mais j'irai jamais à l'encontre de mes valeurs. Si on me demande de représenter un restaurant que...
Mais la clause devrait être là. Si l'acteur est à l'aise...
C'est ça. Oui, mais ici, c'est ça. Je veux dire, moi, on me demande, là, tu sais, Yann, tu veux-tu faire telle affaire?
Ouais.
C'est oui, c'est non, ils sont très, très ouverts à ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Puis à un moment donné, il faut respecter aussi ton auditoire. Tu sais, si tu dis constamment que le restaurant, c'est le meilleur restaurant au monde, puis que toi-même, tu le sais que c'est le pire restaurant de merde, puis t'envoies tes auditeurs-là, c'est un manque de respect total.
Exactement. Là, c'est juste d'être fidèle à toi. Puis je pense que de le demander simplement à ces acteurs-là, ça peut être une possibilité au lieu de l'interdire. T'sais. Je pense qu'il y a une balance aussi. Là. Nos émissions ne deviendront pas non plus du placement publicitaire de bord en bord. Là. Moi, je ne l'ai pas remarqué pour que ça me dérange. Là.
Ouais. Des pubs de même dans les séries réalistes, c'est tel que tel. Mais bon, de voir une boîte de pizza Salvatore dans Star Wars, je débarquerais assez vite.
Ah ben là, ça, c'est sûr. Là. Je pense qu'il y a un contexte à tout aussi, on s'entend.
Ben, ça serait malade.
Non, mais souvent, dans les films ou dans les séries américaines, ça va être des affaires genre Apple qui va placer. Fait que, ceux qui regardent Indéfendable, vous remarquerez que sur l'ordi des avocats, là, il y a un sticker ou les logo parce qu'ils font pas de publicité non nécessaire. Mais tu sais, mettons qu'Apple aurait payé, bien probablement que l'ordinateur, tu le verrais, le logo. T'sais, des fois, c'est subtil comme ça dans les séries et les films américains. Ben oui.
Ça me dérange plus ou moins. Ça m'influence pas vraiment non plus, mais un point à soulever, c'est l'argent que ça coûte à produire une série ou un film pour des gens qui s'attendent à écouter de la série gratuitement. Il y a ça aussi. C'est vrai que la série, quand tu l'écoutes à la télé généraliste, c'est gratuit. Mm.
C'est vrai. Ben, tu payes ton corps, mettons. Tu payes le corps. Tu payes pas ton émission.
Mais il y en a qui sont... moi, en boss, là, j'avais encore mon truc. Là, j'avais acheté ça chez Best Buy, Audrey. C'est genre avec des antennes de lapin. Là. J'étais capable de pogner... Je vais y aller à l'ancienne. Le 2, le 4, le 11, puis le U. J'étais capable de toutes les pogner. Là.
Avec tes antennes.
Ça coûtait absolument rien. Puis écoute, c'était 100 km. Il me semble que c'était 100 km. Puis t'as jusqu'à 500 km que tu peux pogner de l'antenne.
Là. Oh, ouais.
Ouais, c'est en vente chez Best Buy. Ça coûte gratis.
Encore ben, aujourd'hui?
Tu captes les ondes. Ah, mais ça te coûte à peu près 100 ou 150 pièces de mémoire, ce petit bidule-là.
Il n'y a pas le Fire TV Stick aussi, là, qui... Hey, là, moi, tu sauras que dans la techno, je suis une pourriture, là, fait que...
Non, mais non, plus, je connais pas ça, le Fire TV Stick.
Je parle pas à travers mon chapeau, là, 88-971-1021. Je vais pas dire de schnout, mais je sais qu'il y a des façons de faire encore aujourd'hui qui sont semblables à ce que tu expliques, là.
J'essaie de regarder les commentaires qui sont rentrés. Qu'est-ce que Guillaume,
y a des gens qui nous disent
le métier vierge, j'en pense.
C'est une bonne question, ça. Il y a des gens qui disent qu'ils ne remarquent pas non plus ces publicités-là. C'est la seule façon de faire compétition au streaming. C'est un bon point. C'est pas un point qu'il faut non plus.
Mais ce qui m'agace, c'est pas ce que les gens en pensent. Parce que les gens ont le droit à leur opinion concernant le placement publicitaire. Moi, ce qui m'agace, c'est l'union des artistes.
Ouais.
Qui interdit à ces artistes, dans certaines séries, de toucher à des produits... Parce que ce serait le mal incarné, mais c'est de l'argent privé, les amis. Plutôt que de demander de l'argent à monsieur et madame tout le monde, c'est une entreprise qui est très fière, qui accepte, qui trouve que votre produit est exceptionnel, puis qui dit « Hey, cet acteur-là est tellement bon, je veux placer mon café à côté, dans la même pièce que lui. »
C'est positif.
Ben, c'est très positif. Sinon, les séries au Québec, on va en avoir de moins en moins. Ça coûte extrêmement cher. Puis ces acteurs-là, ils vont faire un peu de théâtre. Ils vont faire quoi?
Ah,
ils vont se laisser mourir ou ils vont nous demander encore plus d'argent.
Tu penses que ça va disparaître?
Ben, je veux dire, il y a de moins en moins d'argent disponible pour des séries québécoises, des films québécois.
Ils en font encore beaucoup, par exemple.
Mais quand t'es capable de compenser avec du privé, tu sais.
Ouais. Ben, on est rendu là, je veux dire, il va falloir qu'ils évoluent et qu'ils se posent des questions.
Parlant d'être rendu là, Audrey, tu vas me...
Oh mon Dieu, que c'est stéréotypé, ton affaire, c'est pour...
Tu vas me présenter la prochaine toune puis me dire ce qu'on va faire après la pause tantôt.
Hey, je vais t'écouter, Yann. C'est Vincent Vallière avec Stone, Boulevard 102.1.
Puis après la pause, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, on parle avec une hypnothérapeute, Noémie Landreau, qui s'en vient dans quelques instants.
Audrey!
Arrête, tu pauvre titre!
Dis que tu m'aimes, Audrey!
Je t'aime, Yann.
Ouais, ça marche. Ben oui, une hypnothérapeute. On va avoir cette dame-là tantôt. Écoute, en médecine, l'hypnose est utilisée. Pour ceux qui vont chez le dentiste, ceux qui ne sont pas capables de se faire geler, là, ben il y en a qui se font hypnotiser. Fait que le dentiste utilise ces techniques-là. Puis il y en a qui le font aussi pour arrêter de fumer. Fait que c'est quelque chose qui est...
Pour des traumas, pour...
hyper intéressant. Moi, j'avais reçu Mesmer. Puis Mesmer avait dit...
Tu t'es-tu fait hypnotiser?
Non, ça n'avait pas marché.
Ah, mais faut que tu y crois aussi, là.
Oui, mais peut-être que ça pourrait fonctionner avec quelqu'un, tu sais, une hypnothérapeute professionnelle, mettons, pour aller chez le dentiste et tout ça. Mais dans le cas de Mesmer, c'était une affaire de se coller les doigts et tout ça. Ça n'avait pas vraiment fonctionné. Fait que je n'étais pas réceptif, comme d'habitude. Mais
un trouble de l'opposition en partant, là.
Même avec Mesmer.
Ça marchera pas.
Mesmer m'avait dit qu'il y avait une portion de spectacle là-dedans.
Ben oui.
Tu sais, il y en a qui se font réellement hypnotiser, qui vont monter sur scène, puis il y en a d'autres qui vont dire « Hey, je veux jouer le jeu, puis monter sur scène aussi. » Je serais curieux de savoir le pourcentage, j'y avais pas demandé. Mais il était très intéressant, Mesmer. Puis je vais demander à l'hypnothérapeute qui va venir, tu sais, ceux qui font des spectacles d'hypnose, est-ce qu'ils nuisent à leur métier?
C'est une bonne question, ça.
Ben oui. Vincent Vallière, Stone sur Boulevard. 10h39 minutes. Quelle belle journée on a. On est quoi? On est jeudi déjà?
Déjà. Ouais, J'avais l'impression qu'on était vendredi ce matin. C'est étonnant, là.
On a eu une... Mais ça, c'est mieux quand t'as l'impression que c'est une journée d'avance. Tu sais, mettons, on est mercredi, t'as l'impression qu'on est comme mardi.
Oui, oui. L'inverse est plate.
Oui, l'inverse, c'est un peu...
Quand j'ai réalisé qu'il nous en restait une demain, genre, c'est moche.
Avec toi, en plus. 1 degré sur Québec, c'est plein soleil. On est vraiment gâtés, maximum de plus 2. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé, minimum de moins 10 degrés. Vendredi, demain, ensoleillé, maximum de plus 3 degrés. Et la bonne nouvelle pour ce qui est du week-end, c'est plein soleil. Donc, alternance de soleil et nuage avec un maximum de 9 degrés. Et dimanche, ben, ce sera ensoleillé avec un maximum de 6 degrés. Quel beau sujet on a à jaser aujourd'hui. Je niaisais tantôt avant la pause. L'hypnose, j'en ai régulièrement entendu parler. J'ai déjà eu des gens qui étaient capables d'hypnotiser pour de vrai d'autres personnes dans mon entourage. J'ai trippé sur Astérix et Obélix là, quand on voyait, là, le, je pense que c'était dans les 12 travaux d'Astérix, le monsieur qui disait « Parapus et Osiris ». Je trouvais ça très cool. J'ai assisté à 2 ou 3 spectacles de Mesmer, un au Centre Vidéotron, 2, si je ne me trompe pas, à la salle Albert-Rousseau. Il était de passage hier, à la salle Albert-Rousseau. L'hypnose, ça fait beaucoup jaser. Puis ce que je trouve franchement intéressant, c'est que de plus en plus, des professionnels de la santé utilisent l'hypnose, qui fait en sorte que les gens disent « OK, ben c'est pas juste du spectacle, l'hypnose. »
C'est ça,
ça peut être aussi extrêmement sérieux. Des médecins qui sont capables d'hypnotiser d'autres personnes, des dentistes qui sont capables de le faire aussi, et ça fonctionne.
Mais puis moi, je me suis toujours demandé comment, parce que tu as un bon point. Moi, tu vois, j'ai jamais vu de spectacle d'hypnose. J'ai jamais vraiment été en contact avec l'hypnose. La seule fois où je l'ai été, j'étais disjoker, je faisais de la musique dans des parties de Noël, puis j'animais, puis l'hypnotiseur qui avait été invité avait pas réussi à faire grand-chose. Je sais pas à quel point il était amateur. Fait que dans ma tête, c'était issu du spectacle, l'hypnose, puis de la magie un peu. Tu sais, je croyais pas beaucoup à ça. Mais de plus en plus, on entend parler de l'hypnothérapie pour les gens, comme tu disais tantôt, qui veulent arrêter de fumer, qui veulent régler un trauma, les gens en choc post-traumatique. Fait qu'il y a beaucoup à apprendre sur ce sujet-là.
Si vous avez des questions pour notre hypnothérapeute qu'on va recevoir en studio dans les prochaines secondes, c'est le 418-971-1021. C'est par texto. Noémie Landreau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de vous rencontrer? quand ils apprennent que vous êtes une hypnothérapeute, ça fait ça encore peur à des gens?
Ça fait encore peur à trop de gens, en fait. Souvent, la notion qui est donnée, c'est qu'on va manipuler, on va contrôler la personne. C'est un peu l'image que Mesmer donne sur scène, en fait, de dire « tu prends mon pouvoir ». Donc ça, c'est de l'hypnose de spectacle. Puis tout à l'heure, j'ai entendu une question sur, tu sais, l'hypnose de spectacle, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Non, ça marche sur 10% de la population.
Sur 10%?
10%. C'est pas beaucoup, hein? Vraiment pas beaucoup. Et le problème, c'est qu'on va catégoriser l'hypnose de spectacle comme une hypnose générale pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas du tout, du tout, du tout.
Ça nuit un peu à votre métier en même
temps. Moi, je ne dirais pas ça, sincèrement. Non? Oui, il y en a qui vont dire que ça nuit. Moi, je dis que ça emmène des lumières chez les gens et ça a permis de faire parler plus de l'hypnose. Donc, les gens se sont interrogés en disant « Oui, mais si on est capable d'aller sur l'hypnose de spectacle avec le show, mais on est capable, avec le mental, d'aller travailler tes émotions, d'aller travailler tes blocages. » Moi, je trouve que ça a plus vulgarisé l'hypnose. Bien entendu, il y a toujours les revers de la médaille, mais moi, je trouve que ça a permis de vulgariser l'hypnose.
Votre chum, il se méfie-tu des fois quand vous
pas
le regardez dans les yeux?
Qu'est-ce qu'elle va me faire faire aujourd'hui?
Écoute, j'aimerais donc bien ça, pouvoir le manipuler.
Fais le ménage, vite le lapisser, moi j'adorerais ça.
Est-ce qu'on sait d'où origine l'hypnose?
Oui, ben en fait, c'est Mesmer, mais pas le Mesmer qu'on connaît sur scène, qui a fait de l'hypnose de spectacle et qui a démocratisé l'hypnose pour montrer que ton mental, en fait, il faut savoir, dans ton mental, t'es fait 80% d'inconscient, 20% de rationnel. Ton inconscient, c'est là où il y a la plus grande blessure. Ton rationnel, il se crée à partir de 6 ans à peu près. Tu sais, de 0 à 5 ans, les enfants sont 100% dans l'inconscient. Tu leur parles en images, tu les emmènes dans tes paysages imaginaires. Ouais. Ils y croivent. Tu sais, je dis à mon fils, il a 4 ans, j'ai vu le Père Noël sur un dos d'éléphant avec un tutu, il va me croire. Mm-hmm. Il est 100% dans son inconscient. Plus tard, avec l'âge, je te dirais aujourd'hui, c'est peut-être plus 5 ans que 6 ans parce que les enfants vieillissent plus vite qu'avant. Mais le rationnel arrive. Rationnel, c'est l'éducation. Tu ne peux pas faire ça, tu es un petit garçon. Tu ne peux pas faire ça, tu es trop petit. Tu ne peux pas aller là, tu comprends? Donc, c'est vraiment à l'école et l'entourage qui fait le rationnel est là, mais les blessures sont dans l'inconscient. Et l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qui t'emmène à transcender, à travailler tes blessures, à travailler tes blocages.
C'est quand même scientifique à quelque part, parce que souvent les gens, on dirait que... Moi, j'ai déjà entendu, oh, mais l'hypnose, là, c'est comme les médiums, là, puis ces affaires-là, là, comme si c'était très, très spirituel puis ésotérique.
Pas du tout, en fait. Il faut savoir même, pas encore dans beaucoup d'institutions au Québec, mais en Europe, c'est enseigné à l'université.
Oh, oui.
C'est moi, bon, certains vont l'entendre à mon accent, je suis française, ça fait 16 ans que je suis au Québec. J'ai fait une fac de psychologie et à l'époque, on pouvait choisir une option hypnose. Donc, dans des universités européennes, ça existe, le diplôme d'hypnothérapeute, notamment hypnothérapeute clinique. Donc, ça, c'est réservé à des infirmiers, des médecins, des dentistes, comme tu l'as dit, en fait, tout à l'heure, pour les douleurs dentaires, les anesthésies. On parle d'hypnose vraiment clinique ici. Et, mais oui, c'est très démocratisé en Europe. Ça arrive un peu plus au Québec, mais je te dirais, c'est pas encore arrivé dans les universités ici.
Okay. Est-ce qu'on va chercher une partie du cerveau quand on hypnotise quelqu'un? Y a-t-il une partie du cerveau qui a été identifiée, qui réagit plus, puis c'est grâce à cette partie-là que vous êtes capable d'aller chercher ouais. vos patients?
Oui, mais en fait, tu vas travailler beaucoup ton cerveau limbique et ton cerveau émotionnel. C'est sûr que ton cerveau émotionnel, c'est celui-là qui t'empêche de passer à l'action, c'est celui-là qui te freine, c'est celui-là qui te protège. Donc, en fait, en hypnose, on va utiliser des états de modifier de conscience. Donc, si tu es plusieurs fois en hypnose par jour et tu ne le sais même pas, en fait, pour te dire. Tout le monde est sous hypnose entre 10 et 20 fois par jour. Est-ce que ça vous arrive tous les deux d'être dans la lune?
Oui. Oui.
Bon, ben, vous êtes en état d'hypnose.
Ce serait okay, ça.
Mais c'est ça, l'hypnose.
Exactement. C'est cet état modifié de conscience dans lequel tu n'analyses pas. Tu me suis? Le rationnel, c'est l'analyse. L'inconscient, c'est quand tu es dans la lune. Tu conduis, je ne sais pas, vous conduisez.
Oui.
Puis ça vous arrive des fois, après avoir conduit, de dire « j'ai déjà passé la sortie d'autoroute
mm-hmm. ».
Bon, vous êtes en hypnose. Donc, c'est un état modifié de conscience dans lequel tu peux reprogrammer. Tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de rationnel qui juge.
J'aimerais ça savoir, parce que là, vous dites que c'est enseigné à l'université. On dirait que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on apprend dans ces cours-là. Là. Qu'est-ce qui vous est enseigné? Comment on est capable d'atteindre? Est-ce que moi, je pourrais devenir hypnothérapeute demain matin ou il faut quand même un don de base? Là?
Je te dirais, à partir du moment que tu as l'écoute et la bienveillance de prendre soin de toi et prendre soin des autres, c'est permis à tout le monde, sincèrement. Tu sais, moi, je suis tombée dans l'hypnose. Je te dirais, ce qui m'a emmenée dans le bien-être, c'est mon mal-être. Moi, je suis tombée dans l'hypnose par hasard. Ben, par hasard, il n'y a pas de hasard, mais pour prendre soin de moi. Vraiment, je suis partie à la base avec aucun objectif d'être hypnothérapeute, mais zéro une barre. Au fur et à mesure, tes amis entendent parler que tu fais un cours d'hypnose pour prendre soin de toi, ils disent « tu peux tester sur moi », tu sais, ça intrigue toujours. Puis c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai développé une clientèle, mais sans même aller chercher une clientèle, tu me suis? Mm-hmm. Donc c'est vraiment, je te dirais, à partir du moment que tu intègres ce que tu fais, c'est un peu partout, hein, t'as des bons hypnothérapeutes, des mauvais, il y a des chanteurs qui prennent des cours de chant et ils chantent très mal, même après les cours de chant. Donc, pour tout le monde, on a des garagistes qui sont bons, des garagistes qui sont mauvais. Donc, dans tous les cas, que ce soit hypnothérapeute ou ailleurs, t'auras toujours des gens qui... Tu comprends, tu vas avoir un feeling un mm-hmm. peu moins intéressant avec eux. Mais c'est permis à tout le monde. Moi, je dis tout le temps, quand tu travailles dans le bien-être, intègre ce que tu fais pour être une personne optimale, pour aider les autres.
Puis advenant là, que j'entre dans ton bureau, c'est quoi les étapes? Là? Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions en passant, là, puis on y reviendra, mais je suis curieuse de savoir comment ça se passe exactement. T'sais, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, de l'hypnothérapie, puis je te demande pas de m'hypnotiser
ce matin. Non, mais je le ferai pas, là.
mais vraiment de savoir comment ça fonctionne si tu décides d'aller consulter en hypnothérapie dans vie.
Bien, en fait, c'est simple. Première chose, tu prends rendez-vous et tu reçois un questionnaire d'évaluation par courriel automatique. Moi, je demande aux gens de me remplir leur objectif. Qu'est-ce que tu veux travailler avant de venir? Tu sais, il faut que tu aies un objectif. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on vient travailler en hypnose. Ça peut être le bien-être, ça peut être, comme tu disais, la cigarette, l'alcool, la drogue, etc. Ça peut être une élimination de poids, bref. Donc, tu remplis ton formulaire. Quand tu arrives, c'est sûr que ta première séance, on va parler un peu plus. On n'est clairement pas en psychologie ici. On est d'accord, ça c'est réservé aux psychologues. Mais quand tu rentres, j'ai besoin de savoir où on va travailler. Donc, on prend connaissance ensemble et après, on fait ce qu'on appelle les phases. Donc là, on a les phases d'induction. Ça veut dire tranquillement, je t'emmène dans un état de relaxation. Tu ne dors pas, tu ne fais pas le kangourou, je ne te manipule pas. C'est super important à savoir.
Moi, une genre de méditation?
Oui, une méditation un peu plus poussée. Il y a différents modes. Tu sais, on parle des modes légers de conscience, des modes profonds de conscience. Donc moi, je t'emmène en induction, puis tranquillement, on va aller déverrouiller les blocages. On travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'état de conscience modifié dans lequel je travaille en hypnose, c'est ton imaginaire. Donc, je suis une grande conteuse d'histoires. Donc, je t'emmène dans des châteaux, je t'emmène au bord de la plage, je t'emmène dans des paysages. Ton inconscient ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, un traumatisme, une problématique qui peut l'identifier comme, je vais extrapoler pour faire comprendre, mais une bouteille cassée va représenter ta problématique. On va aller la réparer, on va aller travailler autour de cette bouteille, on va créer un paysage, on va t'aider à transformer ce blocage en positif. Donc, c'est très doux comme technique. On ne tombe pas dans le traumatisme. D'une, il y a une loi qui nous protège. On n'a pas le droit de faire imaginer une personne, son agresseur arriver ou quoi que ce soit. Donc, on est très, très protégé. On doit faire très attention aussi à ça. On est... C'est moi, je suis dans l'ordre des naturopathes. Donc, c'est sûr que je ne suis pas psychologue non plus. Je ne suis pas professionnelle de la santé. Donc, c'est important de travailler de manière très légale et douce avec les gens pour ne pas les emmener dans des traumatismes.
OK. Est-ce que il y a des choses qu'on peut faire à quelqu'un sous hypnose qui va aller à l'encontre de ce qu'il veut faire?
Alors, clairement pas. L'inconscient, il est toujours là pour te protéger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc ça, c'était juste dans les films, ouais, hollywoodiens.
Oui, exactement. Je peux pas t'emmener faire quelque chose contre ton gré. Je vais te dire, il y a 10 ans, quand j'ai fait mon diplôme d'hypnothérapeute, pendant le cours, tu sais, on s'exerce, on fait plein de pratiques sur nous. Il y a une personne qui a voulu m'emmener dans un domaine que je ne voulais pas aller. Je n'étais clairement pas prête. Je lui ai dit, je veux travailler ça, tu m'emmènes. Elle a voulu faire une petite switch et m'emmener dans un autre domaine. Je peux te dire, j'ai ouvert les yeux puis j'étais très énervée.
Ah ouais.
Okay? Automatiquement, tu sors de l'hypnose, c'est automatique. On ne peut pas t'emmener à faire quelque chose contre ton gré. Donc moi, je ne peux pas te manipuler. Si tu viens à mon bureau, c'est quand les gens ils me disent, Noémie, est-ce que ça va marcher sur moi? Ben, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu le veux ou est-ce que tu ne le veux pas? Ça m'est déjà arrivé de refuser une personne. En fait, au bout de la deuxième séance, je lui ai dit qu'on allait arrêter. Pourquoi? La personne venait pour sa conjointe, pas pour lui. Qu'est-ce que je peux faire? On n'a pas de collaboration, ça ne peut pas fonctionner. Je ne peux pas faire les choses à ta place. Je n'ai pas ton pouvoir. Toi, tu dois prendre ton pouvoir. On fait un travail d'équipe.
Et c'est le même principe rendu là que la psychologie ou quand tu vas voir un travailleur social, je veux dire, même s'il te donne des outils puis essaie de t'amener dans ton enfance puis la source de ton problème, si tu ne fais pas l'exercice d'évaluer, de retourner en arrière, de te poser des questions, ça ne sert littéralement à rien de consulter.
Exactement. Je n'ai pas le pouvoir de prendre le contrôle des gens. Je n'ai pas le pouvoir de guérir encore moins. Ça, c'est juste des médecins qui ont ce pouvoir-là. Donc, moi, je peux juste t'accompagner à la seule et unique condition que tu veuilles. J'ai des gens qui arrivent ce qu'on appelle être sur son seuil. Ça veut dire, je suis tannée, je ne suis plus capable, je veux changer. Les changements se font hyper vite en hypnose. Mais il faut être décidé, il faut avoir envie. On fait vraiment un partenariat ensemble, on fait vraiment équipe.
Mais comment ça se traduit? J'ai de la misère à comprendre. Tantôt, vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment titillée. On est dans une société actuelle où on cherche la pilule magique pour la perte de poids, le Zampic. Puis vous avez dit que pour la perte de poids, l'hypnothérapie pouvait être une solution. Mais je me demande, pour n'importe quel problème, comment ça se traduit dans la réalité?
Ben, en fait, l'élimination de poids, et j'aime ça dire l'élimination et non la perte de poids, parce que quand tu perds tes clés, tu veux les retrouver. Quand tu élimines, tu perds du poids, tu veux le retrouver. Mmh. Tu me suis? C'est l'impact aussi des mots qui est important en hypnose. C'est notre programmation, les mots. Donc, je te dirais, le poids, c'est simple. Combien de gens disent « je mange mes émotions ». Donc, qu'est-ce qu'on travaille dans l'élimination de poids? À gérer tes émotions. Pourquoi tu manges? Parce que tu as un vide intérieur pour X raisons. Il y a des gens, ils se sentent seuls, ils ont un vide intérieur, ils vont se nourrir dès qu'ils s'ennuient, dès qu'ils sont tout seuls. Il y a des gens qui ont eu des deuils, des choses comme ça. Ils vont manger leurs émotions. Donc, on va travailler la gestion des émotions. Je te dirais 90% du temps, tu combles la gestion d'émotions. Pareil pour la cigarette, pareil pour l'alcool. Les gens qui ont une dépendance, ce n'est pas des gens qui ont un profond bien-être. Donc, on va combler, tout simplement.
C'est des séances de combien de temps, exemple? Parce qu'il y a des auditeurs qui nous disent « Moi, j'ai un problème de cigarette, là, je veux m'en débarrasser, j'ai essayé de tout faire. » Puis on me dit que l'hypnose, ça pouvait fonctionner. Ça peut ressembler à quoi? Combien de séances? Qu'est-ce qui se passe pendant ces séances d'hypnothérapie-là?
Ben, en fait, la cigarette, moi, j'avoue que j'ai un grand plaisir, entre guillemets, de faire les dépendances parce que la cigarette, ça se fait en deux séances. Moi, je prends deux séances pour faire l'arrêt de cigarette.
Mon Dieu, c'est rapide.
Ouais. Mais si la personne est décidée, c'est super rapide. On va gérer, en fait, la gestion des envies. Donc, tu sais, je le fais la première séance. On va t'apprendre des outils parce que tu repars souvent avec des techniques à pratiquer. Moi, j'emmène les gens à être... à être autonome. Je ne veux pas avoir un abonnement de client au bureau. Moi, plus c'est rapide, plus je suis contente parce que les gens ont des vrais résultats. Tu me suis?
Oui.
Donc, en cigarette, c'est vraiment, tu viens, première séance, on va te donner un outil pour gérer les envies. Ça veut dire à chaque fois que tu as une envie de fumer, une envie de prendre un verre ou peu importe, on va gérer ton envie. À la deuxième séance, là, on va aller faire les déverrouillages, les reprogrammations mentales. Je travaille toujours en images. Donc oui, tu vas aller dans une forêt, tu vas aller dans des châteaux, mais ton inconscient ne fait aucune différence entre le réel et l'imaginaire. Donc moi, je dis aux gens, meilleur cadeau que tu vas te faire, ne juge pas avec ton rationnel ce que je vais faire et ce que je vais te dire. Fais juste écouter ma voix, fais juste écouter les mots, fais juste imaginer ce que je te dis. Après, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais moi, je n'arrive pas à imaginer. Est-ce que tu as déjà vu un arbre dans ta vie? Ouais. Ben oui. Donc, tu es capable d'imaginer un arbre. Même si tu ne le vois pas, tu peux l'imaginer. Donc, j'emmène jamais des images que les gens ne connaissent pas. Je les emmène toujours dans un terrain connu. et l'inconscient ne fait jamais de différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, ça va très, très vite.
Est-ce que tu t'auto-traites? On a commencé, tu nous racontais que tu as fait tes études parce que toi, tu avais un certain mal-être à travers tout ça. Fait que c'est vrai qu'on peut s'auto-hypnotiser.
Oui, 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 on peut s'auto-hypnotiser, sauf qu'on ne va pas au même endroit, à la même profondeur quand on le fait tout seul. Moi, je ne le cache pas, je m'en vais souvent à Trois-Rivières, Drummondville, j'ai deux collègues qui sont là-bas, je fais l'aller-retour quand j'ai besoin pour moi. Puis je le fais en entretien régulier. Je veux dire, le bien-être, ça se cultive.
Tu rentres au garage de l'hypnothérapie.
Oui, exactement. Je fais ma petite vidange de temps en temps. Mais oui, j'ai des techniques que je pratique. Tu sais, okay. Même ce matin, avant de venir, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est des techniques de respiration dans laquelle on va avoir une homéostasie plus facile dans le corps. Donc oui, je veux dire, je suis obligée de pratiquer sur moi. Je suis obligée d'intégrer ce que je fais. Je n'ai pas le choix si je veux être alignée. Parce que ce qui arrive, si moi-même, je ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre le malheur des gens sur mes épaules.
La cohérence cardiaque, c'est quand on respire au rythme du cœur?
Cohérence cardiaque, c'est des où en fait, on vient en cohérence entre le rythme cérébral et le rythme cardiaque. C'est des respirations de 5 minutes, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. Ça équivaut à 1h30 de méditation.
OK.
Donc, et puis c'est très... Il y a beaucoup de recherches. Il y a même eu une conférence à l'Université Laval sur la cohérence cardiaque.
On le pratique en yoga aussi.
C'est génial d'aller chercher la cohérence cardiaque parce que tu vas vraiment travailler tous tes organes. Tu vas travailler à augmenter ta sérotonine, qui est l'hormone du bonheur aussi. Tu vas travailler à évacuer l'adrénaline, la cortisone et tout ça. Donc, c'est des techniques simples que je peux donner aux clients. Puis, ils ne repartent pas sans rien après la séance d'hypnose. Mais c'est des séances d'une heure. Et je te dirais... En moyenne, les gens, ils se prévoient 3 séances. La cigarette ou les dépendants, je le fais en 2, mais ça va dépendre de la personne. Tu sais, dernièrement, j'ai une personne qui m'a dit « Moi, j'aurais besoin d'une 3e parce que je suis fébrile. » Ben, good job, elle se respecte, elle s'écoute et on en fait 3. Donc, c'est pas...
C'est plus technique comme question, mais est-ce que c'est reconnu au moment où on se parle? T'sais, je vais parler d'assurance, mais je sais qu'il y a des gens qui cherchent des solutions en ce moment pour des choses qui pourraient peut-être se régler avec l'hypnothérapie au lieu d'aller voir un travailleur social ou un psychologue. Mon Dieu, c'est qu'on en manque. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être remboursable par les assurances? Est-ce que c'est reconnu?
Ça va dépendre le nombre d'heures de formation de l'hypnothérapeute.
Mmh. OK.
Donc, dans mon cas, moi, j'ai mis des reçus d'assurance, effectivement, avec mon association. Nous, c'est une association qui nous couvre. Donc oui, dans certains hypnothérapeutes, on peut avoir des reçus d'assurance et la naturopathie est quand même très, très bien prise par les assurances. Donc oui, moi, je te dirais 90% de mes clients demandent le reçu pour leur assurance.
Okay.
Puis, advenant le cas que, ben, ils n'ont pas d'assurance, on peut le mettre en tant que dépense aussi sur les impôts. Donc, il y a quand même un avantage aussi.
Il y a de ça quelques jours, j'étais en train de... Je tombais dans la lune. Puis, j'étais en train de réfléchir. Là, je ne veux pas qu'Audrey me vende parce qu'elle connaît un peu l'histoire. Mais je réfléchissais à un voyage que j'avais déjà fait il y a de ça plusieurs années. Je pense que c'est un voyage qui date d'à peu près 20-25 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un que j'avais côtoyé dans les dernières années, que j'avais rencontré dans ce voyage-là, mais j'avais jamais fait le lien.
Mm-hmm.
Puis là, tu me dis, quand tu es dans la lune, tu es un peu sous une forme d'hypnose. Est-ce que l'hypnose peut être capable de nous ramener des souvenirs qu'on avait comme un peu oubliés? Est-ce que c'est possible de le faire?
Oui, c'est possible. Sauf que en hypnose, dans mon bureau, je n'irai pas faire de la régression. C'est interdit par l'ordre des psychologues.
Ah oui, OK.
OK? Donc, je n'irai pas faire d'hypnose de régression. Il y en a qui le fait. Ce n'est pas ma pratique. Pourquoi?
Parce qu'on le fait naturellement.
On le fait naturellement. Ouais. C'est bien qu'on le fasse sur des souvenirs positifs, je te dirais. OK? La régression dans le sens où on ne veut pas aller se remettre face à un traumatisme vraiment très traumatisant. Je ne veux pas t'emmener en détresse émotionnelle. Je veux que ça soit doux. Donc, moi, personnellement, j'ai fait le choix de travailler en symbolique.
Okay.
C'est beaucoup moins souffrant. Mais oui, dans cet état modifié de conscience dans lequel tu es, dans la lune, comme on dit, ben oui, il y a des souvenirs qui viennent. Puis aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on fait très peu de vide mental. Ça veut dire, j'ai un moment de... je suis en salle d'attente, qu'est-ce que je fais? Au lieu de regarder le paysage, j'ai laissé le vide arriver, je vais scroller. OK? Donc, on laisse peu de place au vide. Puis, on s'en rend compte, par exemple, moi, ça m'arrive très souvent, je suis dans la douche le matin, j'ai des idées qui arrivent. Ben oui, parce que je n'ai pas rempli mon cerveau de plein d'images et plein d'activités. Donc, dans la lune, c'est là où tes idées et tes souvenirs viennent. Donc, c'est important d'avoir des temps à ne rien faire. Posez-vous dehors, regardez juste les feuilles bouger.
J'ai des textos qui rentrent au 418-971-1021. « Salut, j'ai déjà été hypnotisée à quelques reprises par mon psychologue de l'époque. J'étais adolescente et j'ai été aussi hypnotisée en début de l'âge adulte, il y a de ça à peu près 10 à 15 ans, pour des traumas et des crises de panique. Ça m'a énormément aidée. Je comprends toujours pas aujourd'hui comment ça s'est passé, mais le résultat a été assez incroyable. »
Oui, puis c'est pas énormément de séances. Tu sais, on dit souvent qu'en hypnose, tu vas faire un peu moins de séances que ce qui est en psychologie. Et t'as pas besoin de raconter ta vie des heures et des heures. J'ai des gens qui viennent en hypnose parce qu'ils ont pas envie de raconter toute leur vie. Mais ils vont pas bien, ils veulent se faire aider. Donc oui, de plus en plus, on a des psychologues qui sont formés en hypnose. Je trouve ça génial. À mon sens, il n'y en a pas encore assez. Il faudrait démocratiser encore plus l'hypnose aujourd'hui, ouais. Parce que c'est un état naturel dans lequel on est tous. Donc, on a le pouvoir de se détruire. Si on a le pouvoir de se détruire, on a le pouvoir de se construire.
C'est fou parce que j'avais vraiment les perceptions complètement inverses. Moi, je me disais que ça allait être comme plusieurs séances, que c'était long, que tu sais, tu vas jouer dans le mental de quelqu'un. Tu sais, ça peut être difficile. Fait qu'on dirait que je suis vraiment contente qu'on se parle ce matin. Il y a un texto qui est rentré qui demande est-ce que ça fonctionne pour ce qui est des phobies? J'imagine que la réponse oui, c'est oui.
Ben oui, parce qu'en plus, dans le cas de peur, il faut savoir que c'est ton cerveau qui a décidé qu'il y avait un danger de mort. OK, la peur, c'est ton cerveau. Il y a un danger de mort, il faut que je m'éloigne. Donc, je vais trembler, je vais paniquer dans certains cas, je vais bégayer, je vais avoir le rythme cardiaque qui s'accélère. Ça, c'est une réaction inconsciente de peur, de danger de mort. Donc, en hypnose, on va juste calmer le mental en disant, OK, est-ce que je vais y aller avec les araignées pour que tout le monde comprenne?
Hey, c'est drôle, je voulais t'amener là parce que je me disais, c'est sûr qu'il y a déjà eu des petites peurs de pense comme
mais
ça.
Oui. Écoute, j'étais en conférence samedi dernier, justement, et pendant ma conférence, il y a une personne, il y a une araignée qui passe, écoute, elle saute sur sa chaise. J'ai dit, génial, tu vas intégrer ma conférence. C'était une conférence sur les peurs. C'était génial.
On ne sait même pas pourquoi, en plus, des
fois.
Là, c'est...
Puis, il y a combien d'araignées mortelles au Québec? Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Tu aurais une vraie peur si on était toutes les deux en forêt amazonienne avec des araignées vraiment venimeuses. OK, tu as une raison d'avoir peur. Mais la majorité des peurs, c'est 90% des peurs, sont des peurs dites illusoires. Donc, quand même, on a 90% de peurs qui sont inventées, une histoire de notre inconscient.
C'est fou, hein?
C'est pas réel.
Je regarde toutes les questions qui sont posées, il y en a énormément. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Noémie Landreau, c'est la meilleure », mais il m'a mis entre guillemets que c'était ton chum qui disait ça.
Ah, non!
Okay. On le salue.
C'est très drôle. Salut, Jeff.
On le salue. Comment on choisit un hypnologue qui va fonctionner avec nous?
Écoute, je te dirais, d'une, va voir les avis des gens. Première chose, tu sais, aujourd'hui, maintenant, on a Google, il y a plein de choses. Tu es capable d'aller chercher des témoignages, des avis des gens qui ont déjà été voir ce professionnel-là. C'est important, moi, dans mon sens, d'aller avoir confiance avant même de prendre rendez-vous. Parle-en autour de toi. Il y a des gens qui ont été voir des hypnothérapeutes, mais qui n'en ont pas parlé. Donc, parce que ça reste encore un peu tabou de se faire aider, malheureusement. Puis ça, je travaille fort à faire changer cette mentalité. Mais se faire aider, sachez que c'est une grande marque de force et non de faiblesse. Donc, parlez-en autour de vous. Puis moi, je dis toujours, tu sais, des clients qui m'ont vu via Google, via peu importe les réseaux, qui viennent me voir la première fois, je leur dis, on ne prendra pas le deuxième rendez-vous ensemble. Tu vas prendre ton deuxième rendez-vous en ligne à la seule et unique condition que tu sens que le lien de confiance est établi et que tu es prêt à travailler, qu'on travaille ensemble. Pour moi, c'est important le lien de confiance parce que la confiance va apporter vraiment la différence sur l'approche qu'on va faire ensemble, le résultat. Si tu n'as pas confiance, si dès la première séance, tu vois que ça ne fit pas, change. Essaye-en plusieurs. Mais tu ne peux pas qualifier l'hypnose à une seule personne.
Il y a quelqu'un qui nous demande ici, quelqu'un qui souffre d'anxiété généralisée, basse estime de soi-même, est-ce que l'hypnothérapie peut être quelque chose
qui
aide
fortement? La confiance, l'estime. Il y a sans doute, en plus, là, il y a un diagnostic médical. Donc, moi, ça m'arrive que la personne me dise, est-ce que je peux te mettre en relation avec mon psychologue? Oui, tout à fait, on fait un travail d'équipe. Donc, oui, on peut travailler. En fait, sincèrement, je te dirais, la seule... problématique que je ne travaille pas dans ce domaine-là, c'est tout ce qui est schizophrénie. Pourquoi? Parce que ton inconscient, en fait, il faut savoir que tu es 80% d'inconscient, 20% de rationnel. Dans ces maladies-là, on est dissocié. Donc, on prend des médicaments, des traitements, on est suivi pour nous aider à être plus associés. Qu'est-ce que je fais en hypnose? Moi, je te dissocie encore plus. Donc, c'est sûr que dans mon questionnaire d'évaluation pré-rendez-vous, il y a une case où tu dois cocher que tu n'es pas atteint de ce trouble-là, malheureusement. Donc, je ne peux pas les aider en hypnose, du tout, du tout. Mais ça représente quoi? Même pas 1%, je pense.
Oui. Non, donc, mais c'est bon à savoir, par exemple, parce qu'il y a des gens pour qui c'est peut-être une nouvelle solution. Là, ça, je trouve ça particulier, un texto qui est entré. J'aimerais avoir plus d'informations sur l'hypnose pour l'accouchement.
Oui, j'ai préparé mon accouchement en hypnose. Ah! Oui, tout à fait. En fait, préparation à l'accouchement, c'est la majorité des femmes... C'est des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais supporter la douleur? La douleur, c'est quand même une création inconsciente, on est d'accord? Tout à l'heure, tu parlais justement, tu sais, dans le milieu médical, pour les anesthésies et tout ça, c'est la même chose pour l'accouchement. Donc, on va enlever les peurs. Moi, j'ai eu la chance, Tania, si elle m'écoute, je la salue, c'est ma sage-femme. J'ai préparé mon accouchement donc, au mois moins 7. Et j'ai créé mon paysage d'accouchement de bien-être. Et j'avais dit à mon conjoint et à ma sage-femme, si je perds prise, montrez-moi le dessin que j'ai fait, parce que j'ai même dessiné ce que je m'étais imaginé comme paysage de bien-être. Et je leur ai dit, si je perds prise, s'il vous plaît, montrez-moi le paysage, parce qu'il faut que je re-rentre dedans. 18 heures, j'ai été sous hypnose naturellement. Ils m'ont remis mon paysage en plein visage, une heure avant d'accoucher, même pas, où là, je commençais à perdre patience. Mais oui, on peut préparer des examens. J'ai des sportifs qui viennent me voir pour le stress de performance. Tu sais, on en parle beaucoup, hein, la préparation mentale. Mais oui. Il y a plein de sportifs qui utilisent l'hypnose pour se préparer.
J'avais pas réalisé à quel point c'était large.
Mais ça peut-tu améliorer mes performances au hockey, ça?
Écoute, oui. Ça va dépendre.
Je pensais pas que c'est là que tu t'entends.
J'ai eu peur, moi, au début. Oui. OK, c'est bon, on a eu la même peur.
On est deux.
J'espère que mon équipe écoute pas. Mais on peut l'utiliser pour tout, puis en autant que ce soit positif, bien entendu, oui, comme tu exactement. L'as expliqué. Puis ce que je trouve formidable, c'est que, tu sais, pour les femmes, il y a de plus en plus de femmes qui veulent justement accoucher de façon naturelle. Ben, l'hypnose, c'est une façon naturelle de le faire aussi. T'sais, moi, j'ai vu deux fois là, les naissances de mes enfants. Puis, bon Dieu, ça avait de l'air à faire mal. Ça ressemblait un peu à une grippe d'homme, mais...
Ah, Yannick Marceau!
C'était pas aussi pire qu'une grippe d'homme.
Tu veux-tu mon téléphone par la tête?
J'en ai un aussi, si tu veux.
mais je l'ai vu dans un cas où elle a pas eu l'épidurale. Puis, écoute, je pense qu'elle aurait peut-être eu besoin d'hypnose.
C'est vraiment
ça
avait
de l'air
fou.
À faire mal.
C'est surhumain.
Vraiment. Est-ce que ça arrive, Noémie, que, bon, tu réussis à avoir... Est-ce que tu les appelles les patients?
Non, moi, c'est mes clients.
Les clients. Ouais. OK. Tu réussis à avoir un client, bon, tu le mets sous hypnose, puis à la fin de la séance, bon, tu le réveilles. Ça
non,
arrive...
je le réveille pas. Alors, excuse-moi, je te coupe. C'est mal poli, hein?
Non,
mais
non.
Je ne réveille personne parce que personne ne dort.
OK, mais...
Tu dors pas, tu es dans un état modifié, donc tu es juste...
Parfait. Est-ce que ça arrive que la personne, elle ne se sort pas de son état modifié puis elle te rappelle comme le soir même pour dire « Noémie, je suis encore un peu mélangée ».
Pas du tout. Ça m'est jamais arrivé en 10 ans. Du tout.
Est-ce que tu peux le faire par Zoom?
Alors, bon, je parle de mon avis personnel à moi, rien qu'à moi, d'accord? Je ne pratique pas en ligne. J'aime le non-verbal. J'aime capter le non-verbal des gens. Je vais te donner un exemple. J'ai eu un jeune... la personne, physiquement, quand je regarde son visage, il n'y a pas de signe idéomoteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coloration de la peau, il n'y a pas de mouvement au niveau du visage, il n'y a pas de mouvement au niveau des mains. À la caméra, je vois juste ça. Par contre, je l'emmène sur un chemin en pleine forêt, etc. Et je vois ses petits orteils parce que le jeune a enlevé ses chaussures. Et je vois les petits orteils qui bougent. Moi, je sais où il en est. Là. On est sur la bonne traque. Donc, si je l'avais fait via le web, personnellement, je n'aurais pas eu le même résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle être en synchro avec les personnes. Moi, je me mets à respirer au même rythme. Je me mets vraiment dans son univers pour comprendre la personne, qu'est-ce qu'elle vit. Parce que sinon, en ligne, je l'ai essayé, je l'ai fait. Ça m'est arrivé, écoute, j'ai quelques clients en Europe. Malheureusement, ils ne peuvent pas venir. Puis moi, je n'y vais pas tous les mois non plus. Mais il y a déjà eu une accroche qui a été faite face à face. Donc après, ça peut m'arriver de dire, parfait, on va le faire en ligne. Mais je le fais très, très peu. J'ai même des clients qui viennent de Montréal et qui font l'aller-retour dans la journée pour venir en rendez-vous. Donc, je me dis, la personne est motivée si elle fait ce choix-là, mais ben en ligne, c'est pas mon approche à moi, perso.
Toujours par texto. Salut Noémie, en hypnothérapie, vous m'avez grandement aidée. Vous m'avez libérée d'un trauma vous rencontrer, ça a été vous adopter.
Oh gentil. My God,
c'est
merci.
Donc bien beau. Eh oui. Tantôt, on pensait, Yann, que tu allais poser des questions un peu plus sexuelles, mais on dirait que ça m'a donné envie de prendre la porte. Non, mais c'est pas toi du tout, hein. Je retire mes paroles. non, mais sincèrement, il y a des gens qui ont des troubles au niveau sexuel.
Alors oui.
Toutes sortes de troubles.
Toutes sortes. Quand je vous dis, j'ai toutes sortes de clients, oui, il y a des gens qui viennent, puis autant femmes comme pour des dérèglements, on va dire, des troubles sexuels, autant dans la dépendance du sexe en ligne. Ça existe de plus en plus,
pour
malheureusement.
Oui.
Et pas juste en ligne, je dis en ligne, mais pas juste en ligne. Autant des problèmes d'impuissance, des choses comme ça. Donc oui, puis souvent, tu sais, on le sait, c'est lié à des émotions. Majoritairement, c'est pas lié à un problème moteur, c'est lié à un problème, un blocage émotionnel. Donc on va travailler ensemble à enlever ces barrières, à faire tomber ces barrières.
La libido, est-ce que c'est quelque chose qui peut être travaillé en hypnothérapie ou l'on est plus avec la sexologie?
Ça va dépendre, mais oui, on peut le travailler. Il y a des gens qu'en sexologie, ça va être plus facile pour eux, c'est leur approche. Puis il y en a d'autres, la sexologie ne va pas leur parler, ils vont aller en hypnose. Puis il y en a d'autres qui vont aller en psychologie parce que ça ne leur parle pas l'hypnose. Donc je te dirais, la magie qu'on a en 2024, c'est qu'on a plein de sortes de techniques pour aider la personne qui veut vraiment se faire aider.
Ah, je trouve ça fantastique. Puis où est-ce que vous êtes située à Québec?
Moi, je suis à Concept Bala, sur la rue Saint-Paul, en face de la gare du Palais, au centre-ville de Québec. Donc, je suis vraiment pas loin. Facile de se stationner. Donc, c'est vraiment un café clinique bien-être, Concept Bala.
C'est un bel endroit en plus où vous êtes situé. Noémie, ça a été un plaisir de te recevoir. Noémie est hypnothérapeute, conceptbala.com, conceptbala.com pour la rejoindre. Puis écoute, on s'en jasera dans une couple de semaines. Je trouve que le sujet est super intéressant. Puis on fera peut-être un test avec Audrey.
Mais non, mais moi, de toute manière, je tiens
comment
à te dire, on va se revoir.
Comment apprécier son collègue?
Comment apprécier son collègue?
Oui, parce que c'est difficile. Il va falloir aller loin dans l'inconscient.
Être plus patiente envers les gens qui ont 100% d'inconscience.
Ah, c'est ça!
Il m'énerve. Une chance qu'on s'aime.
Ouais, exact.
Merci à vous deux. Merci infiniment.
C'est un plaisir. 11h12, on fait une courte pause, Henri.
Boulevard 102.1. Sa passion.
Audrey, tu vas apprendre à m'apprécier.
Hey, honnêtement, là, j'aime vraiment notre show, faut que je te le dise. Moi, rencontrer du monde de même, là, je trouve ça fascinant. Puis j'avais pas des préjugés négatifs, mais j'avais une conception de ce que c'était l'hypnose. Puis je me rends compte que j'étais vraiment dans le champ gauche.
Ben, c'est parce qu'à partir du moment où la médecine l'utilise, t'as pas le choix d'accepter qu'il y a une certaine crédibilité à
ça. Oui, bien moi, c'était vraiment que dans ma tête, il y avait un côté, c'était spirituel. Je me disais, je vais-tu vraiment... Puis là, je dis ça, j'ai aucune idée comment ça coûte, là, je l'ai jamais fait. Mais tu sais, je me disais, mettons, je vais préférer payer ma psy que d'aller faire de l'hypnose. C'est comme si dans ma tête, j'y accordais pas une crédibilité parce que je l'associais vraiment au spectacle.
Mais ta psy peut faire de l'hypnose aussi, c'est capable de le faire.
Probablement. J'ai vraiment, vraiment aimé la rencontre. Puis je veux dire, la conversation a continué sur le Twitch après.
Je parlais avec un ancien athlète olympique, Bruny Surin.
Oui.
Qui, lui, a eu un coach psychologue. Donc, un psychologue sportif, puis il y avait un hypnothérapeute aussi. Je me rappelle pas si c'était séparé ou si c'était la même personne qui faisait ça, mais lui, ça l'a aidé à améliorer ses performances.
J'en doute pas en tout.
C'est Bruny Surin, là, c'est pas le dernier venu. Là.
Je veux dire, ça fait peur.
Tout un athlète.
Quand tu y penses, cet inconscient-là, à quel point c'est un contrôle sur nous autres.
Mais ce qui fait peur, c'est Hollywood. Tout ce que Hollywood nous a apporté comme préjugé qu'on pourrait avoir par rapport à telle ou telle situation, des gens qui te poussent à faire quelque chose contre ton gré. Mais, tu sais, je me souviens, autant elle, Noémie Landreau, que Mesmer qui fait des spectacles, pas le premier Mesmer, mais Mesmer qui fait des spectacles, ils l'ont dit, tu pourras jamais utiliser l'hypnose pour faire réaliser quelque chose à quelqu'un qu'il ne veut pas réaliser.
Non, puis ça, je trouve ça vraiment important parce que si
tu... Ça veut dire que je peux pas y aller pour ma Coors Light.
Malheureusement. Non, mais quand je te disais ça fait peur, moi, c'était vraiment le principe de réaliser que toi, tu as des peurs comme individu, tu as tes propres enjeux, mais c'est tellement inconscient qu'on a besoin d'aide pour s'en sortir. Tu sais, on riait bien à parler des araignées, là. Je peux pas. En fait, je peux t'expliquer pourquoi ma mère avait une peur bleue des araignées. Fait que j'ai été élevée à voir ma mère paniquer aussitôt qu'elle voyait une araignée. Fait qu'aussitôt que je vois une araignée, c'est la fin du monde. Est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé cet été, Yann?
Non.
Pis c'est pas une blague. Je te jure, sur ma tête, sur la tête de tes enfants, sur la tête de ma grand-mère, sur la tête de tout le monde.
T'as pas besoin de faire ça.
Non, t'es superstitieux. Non. Je retire pas ça.
Je fais juste que je te crois sur parole. Là.
Non, mais c'est parce que c'est ridicule. On était dans le cours chez nous, puis j'ai comme un hamac sur lequel tu peux t'asseoir. Il est collé à un arbre. Puis j'étais assis là avec mon chum, puis on jasait, puis à un moment donné, il y a une araignée qui est descendue devant ma face, puis elle s'est posée sur moi, puis la panique qui a pris, je me suis déshabillée dans ma cour, tu comprends? Parce qu'il fallait que je rentre dans la maison le plus rapidement possible. J'ai laissé mon linge sur le gazon. La panique et la peur.
Et depuis ce temps, ridicule. Un attroupement de voisins.
Franchement, non, mais pour te dire à quel point c'est irrationnel, tu sais. Ouais. Mais de penser que juste une personne devant moi, l'hypnose peut régler une affaire de même quand moi, je le réglerais jamais. On dirait que ça me fascine.
Ouais.
C'est ça qui fait peur, je trouve. À quel point l'inconscient, ben, on n'est pas capable de le gérer.
C'est ça. Tu sais, moi, mon gars, il s'est fait piquer par une guêpe.
Il
avait 3 ou 4 ans, il s'était fait piquer par une guêpe. Puis pendant des années, il y a eu la chienne comme pas possible jusqu'à temps qu'on réussisse à y rentrer dans la tête. Que s'il voyait la guêpe ne le piquerait jamais. Puis il nous a fait confiance, mais j'aurais aimé rencontrer Noémie Landreau pour qu'elle puisse rencontrer mon gars puis dire que les guêpes, c'est pas si dangereux que ça. Ouais. C'est juste si tu lui donnes une tape à la guêpe qu'elle va essayer de se venger ou si tu piles dessus ou si tu essaies de défaire son nid. Mais tu sais, on a réussi à le désensibiliser face aux guêpes, mais tu sais, il s'est fait piquer à 3-4 ans puis il s'en souvenait.
Marqué.
Il était marqué. Puis là, aujourd'hui, quand il voit une guêpe passer, il dit « OK, je la vois. » Il se parle.
C'est tellement
OK,
drôle.
Je la vois. Fait que je suis en sécurité. Il est rendu à 11 ans, puis il dit encore ça depuis des années. « OK, je la vois. » Fait que je suis en sécurité.
Mais c'est là que tu vois qu'on a des croyances qui sont vraiment ancrées, là, sur c'est toutes sortes d'affaires. Là.
Les araignées, moi, j'ai jamais vraiment eu peur des araignées. Mais à un moment donné,
c'est
j'étais en Beauce, puis je dormais dans le sous-sol. Elle m'avait fait dormir à terre. Puis, je me réveille, il était comme genre 3-4 heures du matin. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai des frissons sur le chest. Ça, d'habitude, elle veut pas ça à 3 heures du matin. Elle fait ça vers 11 heures. Puis, je me lève, je regarde, il y avait une petite lumière. C'était la lumière de la lune. Puis, j'ai carrément vu une araignée passer. J'ai eu de la misère à dormir après.
Mais non, mais je comprends donc.
J'ai pas réussi à fesser, puis je me demandais, t'es où?
Elle était rendue où? Elle va-tu me rentrer dans le nez? Elle va-tu me rentrer dans les oreilles?
Ouais.
C'est épouvantable.
Ouais, c'est vrai, ça a l'air que...
T'en avales je sais pas combien par année. Là.
Mais ça, c'était une légende de faire peur aux filles.
Ouais, ouais, ben ça a marché. J'ai eu de la misère à dormir.
Avaler ou ils nous rentrent dans les oreilles, c'est ça?
Quand j'étais jeune, à un moment donné, il y en a une qui a pondu derrière un cadre dans ma chambre.
Elle a pondu derrière un cadre?
Oui. Ma mère m'a envoyée dans ma chambre parce qu'elle me chicanait et j'avais encore rouspété ou je sais pas ce que j'avais fait de pas correct cette journée-là.
C'est sûrement rouspété encore.
Fait que je suis montée dans ma chambre. C'est pas moi, arrête. Je suis montée dans ma chambre puis le plafond était noir de petites araignées parce que l'œuf venait d'éclore.
OK, c'était le party.
Oui. C'est peut-être pour ça que j'ai peur des araignées.
Ah, voilà. Voilà. Un gros merci, Audrey. On s'en jase demain.
Absolument. Puis si vous voulez réentendre l'entrevue, elle va être sur YouTube et le blvd.fm. Le Noémie Landreau, je vous donnerai le contact si jamais.
Parfait. Merci beaucoup. Jean Leloup, Johnny Go sur Boulevard. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-101. Pascal CV s'en vient pour Marceau le midi. Merci d'être là. Bon jeudi. Et les pièces sont vides à présent. Je suis